poule aux vanilles. J'aime bien la framboise.
Je pense que je vais prendre deux poules vanilles.
Je sais pas. Deux poules vanilles.
C'est Lucie de l'émission d'information locale. On se retrouve là pour deux boules vanille, une carte blanche estivale qui est laissée aux salariés et aux bénévoles de Canal B. Aujourd'hui, c'est moi qui suis au micro pour vous parler de littérature et ce pendant une heure. Au menu, interview d'auteur, de la musique, une lecture avec Okilélé de Claude Ponty, puis une recommandation de podcast toujours autour du livre. C'est Bookmakers d'Arte Radio. Deux boules vanille, c'est parti. Alors aujourd'hui, deux boules vanille chaussent à nouveau ses lunettes, s'installent peut-être sur un transat avec une boisson fraîche à portée de main. Et pendant une heure, on va parler ensemble littérature pour vous donner des idées de lecture pour vos vacances, si elles arrivent, je l'espère. Également vous faire rencontrer des auteurs de la région et faire résonner leurs bons mots dans vos esprits. Aujourd'hui, au micro, c'est Dimitri Rouchon-Bory. Bonjour Dimitri.
Bonjour.
Dimitri Rouchon-Bory, journaliste et auteur breton, c'est pour ça qu'on vous reçoit aujourd'hui, avec plusieurs romans à votre actif, notamment ce Démon de la colline au loup qui est sorti en 2021 et sur lequel on va s'arrêter assez longuement aujourd'hui. Plus récemment, en 2023, vous avez publié Le Chien des étoiles et à chaque fois c'est aux éditions du Tripode. Il faut commencer par dire aux auditeurs que l'écriture, c'est votre métier depuis un petit moment, mais sous une autre forme, une forme informative, journalistique.
En fait, si on reprend au début, j'ai quand même dans ma vie plutôt commencé l'écriture par des formes un peu fictionnelles, dans tous azimuts, mais mon métier, effectivement, depuis longtemps, maintenant ça fait une dizaine d'années, c'est le journalisme. Et c'était essentiellement du journalisme judiciaire, donc chronique judiciaire et faits divers.
Vous êtes spécialisé dans la chronique judiciaire pendant plusieurs années. Il y a un livre qui en témoigne, son titre « Au tribunal », c'est sorti en 2018, qui était plutôt des chroniques, des épisodes de la vie, de ce qui se passe dans un tribunal.
Oui, c'était déjà une manière d'essayer de trouver une porte de sortie par l'écriture pour faire quelque chose de cette matière qui était humainement déjà un peu pesante, un peu présente, et c'est un espace où finalement il se passe tellement de choses qu'on n'a jamais assez, on a besoin de témoigner beaucoup de ce qui s'y joue.
Vous avez quitté cette casquette de chroniqueur judiciaire
Ouais, c'est une casquette déjà que j'avais un peu composée un peu, on peut dire à ma façon, mais il y a plusieurs façons de le faire et au fil des années, on décide qu'on fait de la chronique judiciaire, au fond, quand on en fait déjà une occupation à plein temps. Mais effectivement, là, j'ai arrêté pour des raisons peut-être d'apaisement intérieur. Voilà, il fallait que je fasse un break. En fait, il y a deux dangers. Il y a un danger qui est plutôt pour l'information, c'est un journaliste qui se blinde. Et dans ce cas-là, il finit soit par tomber dans l'anecdote ou dans le fait divers un peu distancié. Si on veut raconter bien, c'est toujours un peu plus dangereux pour soi parce que, enfin, moi, ma théorie, c'est qu'on ne raconte bien qu'à la condition de se laisser un peu toucher par ce qui se passe. Et se laisser toucher une fois, c'est pas grave. Se laisser atteindre comme ça pour raconter mieux pendant 10 ans, 10, 12 ans, ça finit par laisser des petites cicatrices. Ouais.
Quand on vous demande pourquoi vous êtes allé vers l'écriture fiction et pas seulement journalistique, vous expliquez dans une interview que c'était pour rediriger cette capacité d'aller très loin dans la souffrance des gens, mais peut-être aussi vers la vôtre, ce à quoi on pense peut-être moins.
Oui, c'est une façon, enfin, en tout cas, il faut puiser dans sa propre capacité de souffrance pour aller à la hauteur de la souffrance qu'on a pu rencontrer dans ces endroits-là, qui est la plus extrême qui soit, puisque c'est forcément, on n'arrive pas au tribunal pour des bonnes raisons, mais aussi parce que peut-être que pour la raconter, pour la sublimer dans une histoire, il faut en extraire quelque chose de particulièrement symptomatique, signifiant, et pour ça, il faut vraiment, c'est une extraction, et donc l'extraction, elle est en soi une forme de violence qu'on s'impose aussi à travers l'écriture, mais pour réussir cette extraction par les mots, il faut une écriture dédiée et le journalisme, par son besoin de clarté, d'information, par les contraintes aussi d'espace, d'articles, etc., on ne peut pas faire ça. On ne peut pas aller aussi loin et le besoin de raconter par la fiction, il vient aussi de l'envie d'intégrer dans le récit ce qu'on ne peut pas mettre dans un article, c'est-à-dire des petites choses, des silences, de la constance, des choses revues et revues, on n'en parlera pas pareil.
C'est ce que vous avez donc fait avec Le démon de la colline aux loups, qui est présenté comme votre premier roman. Il se trouve que vous en avez publié un autre la même année. Alors c'est lequel le premier?
En fait, Le démon de la colline aux loups, c'est vraiment le premier roman. Et quand ce roman est paru, mon éditeur qui reprend ce premier texte, qui s'appelait Au tribunal, qui était un recueil de chroniques un peu, etc. Et il se dit, mais en fait, dans ce texte, il y a quelque chose qui est déjà un petit peu tourné vers la fiction. On peut le rééditer en le tournant tout à fait du côté de la fiction. Donc c'est des textes qu'on a repris, qu'on a retravaillés pour les installer pour de bon dans un registre de fiction.
Et donc ça, c'est Ritournelle, qui est sorti en 2021 aux éditions du Tripode.
C'est ça.
Comment est-ce que le lien il s'est fait avec votre éditeur, les éditions du Tripode, qui est une maison d'édition parisienne dont le slogan est « Littérature, art, ovni ». Vous êtes allé vers eux, ils vous ont repéré?
Non, mais j'ai envoyé un mail un dimanche après-midi avec le manuscrit. Et l'éditeur qui lit vraiment les mails, hein, il m'a répondu quelques heures après. On a échangé autour de ce texte qui était quelque chose de très particulier pour moi, parce que je savais pas vraiment comment en parler ni ce que ça représentait. Je savais pas si c'était un roman, ce que c'était, etc. Enfin, et le premier travail de l'éditeur, ça a été de me faire rencontrer moi-même mon propre texte, voilà, pour que ça devienne un livre.
Vous étiez confiant en les démarchant? On sait que parfois il faut multiplier les sollicitations auprès de nombreuses maisons d'édition pour réussir à trouver quelqu'un qui nous accompagne.
Là, c'est un peu le petit miracle de ce texte, que je l'ai envoyé à cette seule maison d'édition et c'était parfaitement le bon éditeur pour accueillir le texte comme il fallait, c'est-à-dire être capable aussi ensuite de le faire exister auprès des libraires, auprès du public, auprès des lecteurs, de ne pas le caricaturer dans sa noirceur, de ne pas en faire une sorte d'objet drama un peu pénible, etc. Donc il fallait trouver le bon registre aussi pour l'éditer. Et c'était vraiment avec le souci humain aussi, qui est celui de Frédéric Martin, l'éditeur, ça a vraiment bien marché.
Le démon de la colline aux loups, qui est sorti en 2021, il est présenté comme un premier roman sidérant par les Inrocks, noir, puissant, hypnotique pour Libération. Vous avez décroché plusieurs prix, dont le prix du premier roman des Inrocuptibles et le prix première de la RTBF. Quand finalement a commencé l'écriture pour Le démon de la colline aux loups, et puis dans quelles conditions tout était clair dès le départ sur ce que vous alliez y raconter?
Alors, non, en fait, ce livre, il naît, voilà, on est en juin, à peu près, mai-juin, et j'apprends qu'à la rentrée, je vais devoir assister à un procès en cour d'assises très difficile. C'est un dossier de viol sur mineur, et j'avais entendu un peu parler de ce dossier, je sais qu'il va être difficile, et je croise une dame qui s'occupe de l'aide aux victimes et qui m'explique que les enfants risquent d'être là parce que c'est important pour eux, etc. Et en fait, moi, ça me travaille énormément, parce que pour la première fois, je me sens incapable d'affronter ce procès et je me sens incapable d'affronter la présence des enfants et de leur souffrance dans ce procès. Et donc ça m'interroge, parce que je suis plus dans une posture professionnelle, je sens que j'ai atteint mes limites et je me sens vraiment comme une barrique pleine avec cette possibilité que la goutte d'eau d'un procès soit celle de trop, et je sais pas ce qui se passe si ça déborde. Et je commence à écrire, sachant que, en fait, a priori, moi j'ai pas envie d'écrire des romans, enfin c'est pas quelque chose qui me plaît d'écrire des romans. J'adore écrire des articles parce que c'est très dense, c'est très court, et après on peut passer à autre chose. Mais là, j'ai juste une petite phrase qui me trotte en tête quand je fais mes petits trajets en voiture le matin pour aller au travail. C'est la première phrase du livre, qui est restée la première phrase du livre. Et j'ai juste l'intuition que peut-être ça me ferait du bien d'écrire, de remonter sur cette prime enfance d'un enfant qui va avoir une vie de souffrance. Et en fait, j'écris les premières phrases du livre, et à partir du moment où je les écris, tout le livre s'enchaîne sans que je ne calcule quoi que ce soit. Voilà.
Alors, il faut le dire, on va y revenir à la langue dans ce livre, mais que les phrases s'enchaînent parfois avec la ponctuation qui saute. Alors, les premiers mots de ce livre, ce sont les suivants. Mon père disait, ça se passe toujours comme ça, à la colline aux loups, et ça s'était passé comme ça pour lui et pour nous aussi. Maintenant, je sais que ça s'est arrêté pour de bon. La colline aux loups, c'est là que j'ai grandi, et c'est ça que je vais vous raconter. Même si c'est pas une belle histoire, c'est la mienne, c'est comme ça. Donc, la colline aux loups, en fait, c'est là qu'est posée la maison dans laquelle naît Duke. Il est né entre les deux premiers et les trois derniers. Il va découvrir son prénom lorsqu'il ira à l'école. Et quant à son père et à sa mère, à la violence, sous toutes ses formes, notamment des violences sexuelles, s'ajoute un dénuement total. On va le décrire comme ça. Les premières scènes sont assez lunaires. On parle d'enfants qui sont dans une pièce obscure, qui n'ont aucune attention de leurs parents qui les entourent.
Je crois que dans ce livre, j'ai vraiment aggloméré, à travers ce personnage, la figure de centaines et de centaines d'enfants dont j'ai croisé les histoires dans des audiences, un petit bout par-ci, un petit bout par-là. Et finalement, ce personnage-là, il me permettait de les raconter tous, dans plein d'aspects. Donc, c'est pas un livre qui est basé sur une histoire, sur un dossier. C'est un livre qui me permet d'aller puiser dans tous mes souvenirs, même ceux que j'ai oubliés, finalement, même dans cette mémoire un peu traumatisée par des histoires. Tout afflue vers l'écriture. Et ça me permet de faire ressortir des choses qui en même temps sont là pure fiction et qui en même temps sont très réelles aussi.
Le lieu aussi semble fictif, on ne sait pas dans quel pays on se trouve, on a des prénoms à consonance américaine notamment.
Oui, ça c'est un procédé. En fait, je me suis rendu compte, parce que le deuxième roman est un peu pareil, le fait de ne pas ramener ça dans le réel, ça nous oblige, on n'a pas de refuge, on ne peut pas aller se réfugier dans des choses connues, et donc l'intensité de ce qui se joue dans le texte est brute. Voilà, il n'y a pas d'espace de repos pour l'esprit, puisqu'on n'est pas on est dans l'inconnu tout le temps.
Alors, je plantais un peu le décor d'ouverture du livre avec les premiers souvenirs de ce personnage qui sont la chaleur quand même, en meute avec ses frères et ses sœurs, mais dans une pièce qui est plongée dans l'obscurité avec des ombres qui la traversent. Cette enfance, elle va nous être racontée par un Duke qui est en prison. Quand son compagnon de cellule, Fridge, dort, Duke, lui, il écrit sur une machine qui lui a été prêtée par le directeur du centre pénitentiaire et il va très vite être question de ce démon qu'on retrouve dans le titre du livre, une façon de parler du mal qui, à l'entendre, lui a été transmis par son père, par la colline au loup, et c'est en fait tout le questionnement du livre, à quel point la source de la violence elle est à chercher en nous ou hors de nous, et on va suivre un personnage qui va bouger, c'est ça qui est intéressant dans l'ouvrage.
C'est une bonne question, cette question de ce qu'il y a en nous et ce qui nous est imposé. C'est toute cette question de nos espaces de liberté. Je pense que ce qui m'a toujours frappé quand même au fil des années en voyant des histoires un peu tragiques comme ça dans les tribunaux, c'est quand même le fait qu'il y a plein de gens, ils n'ont pas choisi et c'est leur vie. Voilà. Ils ont été jetés dans le monde, un peu comme des malpropres. Ils naissent un jour, manque de bol, c'est pas la bonne famille. Et ce côté de la roulette russe un peu de la vie qui fait que moi je suis assis à ma place à écrire et quand je rentre a priori ça va plutôt bien et face à moi j'ai des gens, on n'imagine pas, avant d'y aller je connaissais, moi j'ai des parents qui travaillaient dans le domaine social donc j'avais déjà une petite sensibilisation à la question de la précarité et à plein de choses mais on n'imagine absolument pas. Jusqu'où peut aller parfois la souffrance et la misère des gens les difficultés et les épreuves que ça implique aussi.
Et puis ce que les corps ont vécu et de la façon dont ça rejaillit sur les esprits.
Exactement.
Quoi.
Est-ce que parfois le vécu, effectivement, il y a quand même une dimension de transmission. Et quand on a fait 40 procès de pédophiles qui ont eux-mêmes été victimes de viols, etc. Et il y a des histoires incroyables, enfin, de gens qui se sont mis en couple avec leur violeur. Enfin, il y a des choses comme ça qu'on croise. C'est la vraie vie des gens. Mais après, voilà, quand il y a des enfants en jeu, comment on sauve? Comment on préserve les enfants et parce que moi, ce qui m'intéresse pour finir, c'est est-ce qu'on peut interroger, jusqu'où on doit interroger notre modèle de société, notre collectivité pour faire mieux que ça, quoi. Parce que ça fonctionne pas réellement. Enfin, on colmate, on punit, ok, d'accord, mais ça fonctionne pas. Donc, comment on empêche, comment on contrarie, nous, avec notre intelligence collective, cette petite roulette de la vie, ouais.
On le précise, l'idée dans ce roman n'est pas du tout, on va dire, de justifier les actes commis par ce personnage, par son propre parcours, puisque je crois qu'à un moment, c'est peut-être la présidente du tribunal qui le dit, heureusement tous les enfants violés ne foutent pas le feu à des maisons. C'est bien de montrer une lutte interne qui est à l'œuvre donc dans le parcours de ce personnage qui s'appelle Duke. Son questionnement, il se construit par l'écriture, qui est présentée comme une voie d'apaisement, on va le dire comme ça, mais il y en a d'autres, des voies d'apaisement, notamment la nature. À un moment, il se rend compte que c'est là qu'il arrive à faire taire le démon.
Ouais, en fait, je crois que c'est impossible d'être plongé comme ça dans les difficultés de la vie humaine et de la société et de pas chercher des espaces où il y a de l'apaisement. Et c'est vrai que le registre un peu contemplatif dans la nature, c'est quand même un endroit où, c'est ce que raconte ce personnage, finalement, il retrouve un peu le côté fusionnel, immersif de ce qu'il vivait quand il était petit et où il n'y avait pas de langage. Et donc, comme il n'y avait pas de langage, il n'y avait pas de souffrance.
Dans la nature, je pensais que tant que la chaleur était là, le démon ne pouvait rien faire. Ce sont les mots de Duke. Pause musicale, on se retrouve dans un instant pour continuer à parler d'écriture avec Dimitri Rouchon-Bory. Mais d'abord, le choix musical de ce dernier, c'est le morceau « J'allume » de Josman.
J'allume la lumière de mon âme. J'allume un stick et mes yeux clignent. Je l'allume pour garder mon calme. Je l'allume pour que mes démons se calment. Je n'ai pas l'esprit super clean. Car c'est la vie qui nous condamne. J'enlève la tête et j'imagine. J'ai des souvenirs qui m'accompagnent. Je voudrais voir le monde et mon teint. J'ai vu la mort me faire des signes. J'avance vers l'avenir que je dessine. Je suis loin d'être parfait, je sais, je l'assume. Mon Dieu, j'ai beaucoup trop de lacunes. J'ai toujours la tête sur la lune. Il y a beaucoup de larmes dans ma plume. Je ne suis qu'un vagabond qui traîne. Au chemin et quelques migraines. J'ai semé le temps, j'en ai pris graine. Je ne suis pas de ceux qui freinent. Plus j'avance, plus le temps me fait peur. Plus j'avance, plus ce monde m'écœure. Plus j'avance, plus ce monde m'écœure. Mes larmes se noient dans la liqueur. J'allume afin que le ciel m'effleure. J'allume afin d'éteindre mes pleurs. J'allume et je tourne pendant des heures. J'allume. 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 J'allume un stick et je traîne mon spleen. J'allume la green que je sors mon jean. J'allume un stick et mes yeux clean. Je n'ai pas l'esprit super clean. Donc j'allume. 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 J'allume la lumière de mon crâne. J'allume la lumière de mon âme. J'allume. J'allume une feuille et je tourne la page. J'allume un scon pour rester sage. J'allume et je tutoie les nuages. Bien que je m'extire de la cage. Alors j'inspire, j'expire de la rage. J'allume et je tourne pendant des heures. Pas dans ma tête, c'est le désordre. Pas dans ma tête, c'est le désert. Je ne sais même pas ce que je désire. J'allume la lumière, cherche l'espoir. J'allume dans le noir quand je marche le soir. J'ai beaucoup de problèmes personnels. Et quand vient le soleil, je perds le sommeil. J'allume la lumière, cherche l'oseille. Quand tout s'éteint, je suis comme un ouf. Je ne sais pas pourquoi mais j'étouffe. J'allume, inspire et reprends mon souffle. J'souffle la fumée quand je souffre. Pourquoi la paix jamais ne vient. Le passé jamais ne revient. Je me réveille, je rêve que je quitte ce monde. Quand je vois ce monde et ce qu'il devient. Je ne sais même pas ce qui me retient. J'allume. 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 J'allume un stick et je traîne mon spleen. J'allume la green que je sors mon jean. J'allume un stick et mes yeux clean. Je n'ai pas l'esprit super clean. Donc j'allume. 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 J'allume la lumière de mon crâne. J'allume la lumière de mon âme.
Le rappeur français Josman sur Canal B avec le titre « J'allume ». C'était le choix musical de notre invité du jour, un morceau à retrouver sur l'album « Split » qui est sorti en 2020. On poursuit avec la deuxième partie de notre entretien en compagnie de Dimitri Rouchon-Bory, auteur en 2021 du « Démon de la colline au loup ». Duke, on ne va pas raconter ce qui l'amène derrière les barreaux à perpétuité, mais dire que la rage a emporté avec elle plusieurs vies, c'est ce qu'on découvre dans ce roman. Le plus grand échec pour lui, pour Duke, c'est de finir comme son père, puisqu'il y a deux procès qui sont racontés dans le livre. Le premier pour les violences, notamment sexuelles, infligées à Duke et à ses frères et sœurs par leurs propres parents, puis le second procès pour les crimes commis par Duke. Qu'avez-vous voulu dire de ce lieu qui est le tribunal que vous avez beaucoup fréquenté comme journaliste, un lieu dans lequel il n'y a plus grand chose qui nous appartient, tout est exposé publiquement.
Alors ça c'est vrai. Après, ce qui est était très bien pour moi dans ce livre, c'est que je n'ai rien voulu y faire. En fait, c'est à partir du moment où j'ai commencé à l'écrire, j'ai été dépossédé de toute maîtrise et de toute envie et de toute intention. Le texte s'est vraiment écrit. Alors, il m'a fallu du temps même d'ailleurs après pour avoir l'impression que je l'avais vraiment écrit ce texte, parce que j'ai eu plus l'impression de devoir me rendre disponible pour accueillir quelque chose. Et de, parmi les choses qu'il y avait à accueillir, il y avait cette idée, justement, comme vous le disiez tout à l'heure, qu'on n'est pas, c'est pas un texte qui se pose en juge, ni on excuse rien, mais en fait on dit les choses telles qu'elles sont, dans leur plus grande simplicité. Et peut-être que j'avais quand même besoin de ramener à cette question du vécu au tribunal. C'est un moment d'intense solennité, d'hyper-rationalité, etc. Mais il y a aussi une forme de solitude qui s'y déploie. Et cette solitude, elle est extrêmement forte, en fait. Et je pense que c'était plutôt ça. Effectivement, de toute façon, quand on y va, on s'appartient plus vraiment. Et pourtant, c'est là qu'on nous demande le plus d'être en capacité de parler de soi, d'expliquer, de raconter. Et souvent, il n'y a rien à raconter, en fait, pour les gens. C'est pas dans les mots que ça se joue pour eux, parce que si ça avait pu être dans les mots avant, ils n'en seraient pas là.
Duke le dit, il n'a pas les mots pour raconter ce qu'il a fait. Autour de ce personnage principal, il y a toute une galerie de personnages plus secondaires. Je m'arrête sur ceux qui vont accompagner Duke, qui vont plutôt se poser en alliés. Là, une sœur, ici, une famille d'accueil, un compagnon de squat ou encore un prêtre. Ils font partie un peu du bien représenté sous forme humaine qui est entré dans la vie de Duke. Mais lui, s'est convaincu que le bien, ça ne durait pas. Mais ils font irruption ici et là sous différentes formes.
C'est des personnages qui sont importants et en même temps ils sont jamais suffisamment décisifs malgré tout ce qu'ils apportent de positif à ce personnage, parce que peut-être que il y a un décalage entre le moment de l'écriture et après 2-3 ans maintenant j'arrive à parler de ce texte. Au début j'étais incapable d'en dire deux mots et j'espère ne pas, quand j'en parle, artificialiser trop les intentions naïves du texte, mais je pense qu'il y avait quand même dans l'idée de montrer que quand on est violent, quand on maltraite l'autre, quand on commet de la violence, notamment à l'égard d'un enfant, ce qu'on brutalise, c'est jusqu'au fin fond de l'identité de cette personne. Et ça a des conséquences aussi sur plein de choses, y compris le fait que, y a un moment donné où, malgré l'aide, ça ne se joue que dans l'intimité de la personne et dans les choix qu'elle va faire pour elle-même. Et c'est ce que dit Duke, à un moment donné, on ne demande pas à la personne qui est amochée de devoir marcher mieux que les autres. Et pourtant, c'est ça qu'on lui demande. C'est-à-dire qu'il est cabossé et en plus, il faut qu'il fasse des choix qui sont plus difficiles que tous les autres. Et cette dimension-là de la responsabilité supplémentaire, elle est très importante pour comprendre aussi, je pense, qu'il peut se jouer dans l'intimité, dans le drame d'une personne qui a été maltraitée à ce point-là.
J'en arrive à des questions qui concernent plus le processus d'écriture. Comment est-ce que vous l'avez écrit, ce roman, plutôt en suivant l'ordre des chapitres qu'on découvre en tant que lecteur, ou peut-être parce qu'il y a deux échelles temporelles qui se croisent, celle du parcours de Duke qu'il raconte ensuite depuis la prison où il est incarcéré. Il y a eu des allers-retours ?
En fait, j'ai vraiment, je l'ai écrit tel quel. C'est-à-dire que je pense que pour moi, j'ai le souvenir quand même du fait que le face-à-face, enfin la relation entre l'écrivain et le personnage était extrêmement intense. Elle était très dure à tenir. Donc, sans doute que les moments où naturellement j'arrive dans les petits épisodes où il est en détention, c'est des moments où je peux un peu, moi, apaiser spontanément le texte. Et donc, ces allers-retours, les moments où il est dans la nature, c'est des moments où je pense que moi, il faut que j'apaise un peu le texte parce que sinon c'est trop, trop intense. Mais ce qui est marrant, c'est que ce texte, bon, il a été édité, donc il y a eu un travail, mais ça a été un travail plutôt de ponctuation par moment, d'enlever quelques phrases en trop, etc. Mais on a laissé le texte dans sa forme originale, en fait. Donc il est vraiment tel qu'il a été écrit, en fait. Moi, j'ai pas retravaillé ni la forme, ni la structure. Et le Chien des étoiles, qui est le deuxième roman, c'est pareil. C'est un texte qui a été écrit tel quel, voilà. Quand je suis à la page 40, je ne sais pas ce que je vais écrire à la page 45. Quoi.
Ce qui est peut-être pas si courant que ça dans les processus d'écriture, c'est le moment où on s'arrête sur le parlement du personnage principal. C'est le terme qu'il emploie pour désigner sa façon de s'exprimer. Tout est écrit avec ses mots. On peut dire que le narrateur a un point de vue interne. Et la particularité, c'est qu'il y a le plus souvent plusieurs phrases en une où la ponctuation saute et on est parfois proche de l'argot. Vous dites que la langue, elle est venue assez naturellement avec avec le personnage, c'est sorti d'où ?
Je crois que c'est sorti d'un mélange de choses. C'est, déjà, à partir du moment où j'ai eu cette intuition que j'allais, que je commençais à écrire sur un enfant qui allait vivre des choses un peu difficiles et que je voulais aller rencontrer cette souffrance-là, je pense que ça m'a installé dans l'idée que c'était impossible de parler de la souffrance avec la langue des gens qui vont bien. Avec une langue académique, une langue installée, institutionnelle, pour moi ça aurait été imposer une violence symbolique supplémentaire à ce qui se joue pour ce personnage et pour d'autres. Et puis je crois que moi, j'adore l'oralité et j'adore la façon dont peut-être aussi au fil des années au tribunal, on est touché par la façon dont les gens qui sont jugés ou qui parfois sont victimes sont dans un tel état de stress et de difficulté sans avoir le parcours ni les mots pour bien dire. Et donc, ils sont obligés aussi d'inventer. Ils sont obligés de bidouiller, de composer avec la langue, etc. Donc, peut-être que cette sorte de poésie-là, c'est une sorte de poésie du désespoir, enfin, de l'impossible à dire, c'est ça qui me marque le plus. C'est et dans la plupart de mes romans, finalement, enfin, les deux et quelques-uns, à chaque fois, c'est des personnages qui parlent pas. Il y a des personnages muets, il y a des personnages mutiques, il y a des personnages qui n'ont pas les... Parce que je crois que ça raconte la façon dont on est tous, enfin, notre condition humaine, c'est quand même d'abord d'être quelqu'un de trop muet pour ce qu'on aurait à dire et pour comprendre ce qu'on aurait besoin de comprendre de notre humanité.
Alors, vous parliez de poésie. Duke a aussi ce talent d'interroger le sens des mots. Lui qui a eu un parcours très bref à l'école. Si on m'avait demandé mon avis, j'aurais dit que je ne vois pas comment aggraver un viol. C'est un des commentaires qu'il porte là au moment du procès. Pendant qu'il écrit en détention, il y a un prêtre qui vient le voir et qui lui laisse un exemplaire du purgatoire de Sainte-Catherine de Gênes. Ça lui met la cervelle en feu, alors il lui rend le livre. Mais arrive un autre ouvrage, Les Confessions de Saint-Augustin, qui lui parle beaucoup plus. Je voulais vous demander si, pour vous aussi, il était indispensable de lire pour pouvoir écrire.
Alors c'est marrant parce que en faisant des interventions dans les centres de détention, par exemple, on rencontre énormément de détenus qui écrivent de la poésie. Et la poésie, c'est peut-être la forme la plus spontanée qui se joue quand justement on a peut-être peu lu. Et donc, voilà. Je crois que c'est compliqué d'écrire quand on n'a pas lu. Ouais. Mais pour plein de raisons, parce qu'en fait, on a besoin des voix des autres, on a besoin de comprendre plein de choses en lisant. Enfin, voilà, ça me paraît... c'est pas juste un processus scolaire, en fait, c'est d'apprendre par la lecture. On apprend l'empathie, on apprend plein de choses, on apprend aussi l'identification. Mais il y a quelque chose dans la lecture qui nous travaille, voilà. Et moi, j'ai l'impression que l'écriture et la lecture, c'est un peu le même muscle, voilà.
Et vous, qu'avez-vous lu ?
Ben, moi, j'ai commencé par être plutôt un cancre. Quand j'étais gamin, j'aimais pas trop lire. Je lisais de la BD et je lisais une seule BD, c'était un Tintin. Et j'ai relu pendant un an, j'ai dû lire que ce Tintin-là, à peu près toutes les semaines.
Lequel ?
Ah, c'était Tintin en Amérique, je crois. C'était le seul, j'habitais dans un bled, il y avait une toute petite bibliothèque. Et donc il devait y avoir une BD de Tintin, c'était celle-là, et je la réempruntais sans arrêt, donc j'ai lu que ça, jusqu'à ma rencontre, mais plus tardive, hein, avec un prof au collège, qui m'a fait passer de Tintin à Chateaubriand sans transition. Et donc j'ai plongé, moi, assez vite après dans la littérature classique, et surtout, en fait, ce qui m'a le plus marqué, c'est la littérature de l'Antiquité. Quelque chose qui venait de nulle part, qui était loin de nous, et qui n'était pas à l'époque... ni fabriqué ni marketé, quoi. On racontait des histoires. Et il y avait cette dimension du héros antique qui porte sur lui un peu le jeu du destin. Et je crois que ça m'a aussi beaucoup peut-être influencé, en fait.
Jeu du destin qu'on retrouve peut-être en ce personnage qui est Duke dans Le démon de la colline aux loups. On le redit, en plus d'être auteur, vous êtes journaliste dans la presse quotidienne régionale. Comment est-ce qu'on installe des habitudes d'écriture pour parvenir à faire aboutir plusieurs projets de romans là, lorsqu'on a un boulot à côté ?
C'est très compliqué. C'est très compliqué parce que c'est vrai que il n'y a pas de statut de l'auteur. Enfin, c'est une situation sans statut. En fait, on peut décider de devenir auteur à plein temps et c'est beaucoup de galères souvent, sauf si on a la chance d'être
très productif,
voilà, ou de vendre des milliers de livres. Enfin, voilà. Mais c'est surtout que moi j'écris quand je peux. Donc Le démon, je l'ai commencé comme ça. J'écris sur un bout de table le matin, j'écrivais le soir, j'écris sur ma pause déjeuner. Là, en ce moment, j'écris un peu dans le train le matin quand je peux aussi. Et c'est pas très confortable, hein, c'est sûr. Mais le deuxième roman, Le Chien des Étoiles, j'avais eu la chance à ce moment-là d'avoir une réduction de mon temps de travail. Et donc, j'avais des jours que je pouvais consacrer à l'écriture. Donc, ça m'a permis d'écrire le second roman, d'avoir un peu plus de temps disponible. Souvent, comme j'écris des textes qui sont assez difficiles, je suis content de les écrire dans des lieux où ça va bien. Donc j'aime bien aller au bistrot, j'aime bien être voilà, au resto, les gens autour ils mangent. Voilà, c'est des gens qui discutent entre eux. Le monde va bien, à peu près bien, là, dans le quotidien, comme ça, dans des espaces du quotidien où les gens sont affairés, occupés.
Vous l'avez dit, depuis Le Démon de la Colline au Loup, vous avez publié un autre roman, Le Chien des Étoiles. Je crois même qu'il y en a eu deux, puisqu'il y avait Faribault hein, en 2022.
Oui, Faribault. Alors Faribault est hérité aussi de Haut Tribunal. C'est la deuxième partie. C'est un texte qu'on a réédité en deux parties, en fait. Voilà.
Et donc, en 2023, Le Chien des Étoiles, toujours aux éditions du Tripode, on y rencontre Gio qui a 20 ans. Sa vie n'est plus la même depuis qu'un lâche lui a planté un tournevis dans le crâne. Désormais, Gio voit ce que peu de gens devinent, la beauté de la nuit, l'appel des chouettes, la grandeur de ses amis, Papillon et Dolores. On sent là encore une fascination, pourquoi ? Pour la marge et la violence.
Alors, j'aime pas trop l'idée de la marge, parce que j'ai l'impression que ces personnages-là, contrairement à nous, parfois, ils sont plus au centre. Donc, c'est des personnages qui incarnent des blessures. C'est des personnages qui me permettent peut-être de réinterroger les conséquences de la violence à chaque fois. Voilà. Et là, c'est un personnage qui a subi un tel acte de violence qu'il ne sait pas comment revenir dans le monde, il sait pas, il n'a plus de place. Voilà. Le fait d'avoir été victime de cette violence-là, ça l'a... Comme il le dit, ça l'a décalé d'un cran dans sa présence au monde. Il est là sans être là. Il ne sait pas s'il a envie de vivre. Il ne sait pas s'il a envie de mourir. Et donc finalement, ça l'emmène vers un rêve. Et ce rêve est un peu contrarié parce que voilà, la violence n'en finit pas. Donc il doit fuir et il fuit avec deux gamins. Enfin, Papillon qui est muet, qui n'a pour langage que sa propre langue des signes. Et Dolores qui est une jeune femme un peu trop convoitée par les hommes. Et donc ils vont fuir tous les trois pour espérer faire quelque chose d'un peu mieux que ce qui les attend.
De nouvelles rencontres avec le public auront lieu à l'automne autour de cet ouvrage. On sait que, comment dire, entre le temps de l'écriture, le temps de l'édition et puis des rencontres publiques, il peut se passer plusieurs années. Vous êtes peut-être déjà en train de songer au livre d'après.
Alors le livre d'après, déjà, ça va être une bande dessinée, puisque Le Démon de la Colline au Loup va être adapté en bande dessinée aux éditions Dupuis, avec un co-scénariste qui s'appelle Getz, qui est l'auteur d'une BD connue qui s'appelle Rip, et un dessinateur italien, Vincenzo Balzano. Donc on s'est mis tous les trois sur le projet pour transformer le roman en un exercice plutôt visuel. Donc ça va être très beau, c'est très poétique, c'est plein d'aquarelles. Et ça devrait sortir, je pense, dans le courant de l'année 2025. J'ai pas encore de date. Et après, moi, de mon côté, effectivement, j'ai de l'écriture en cours, mais voilà, je me presse pas.
On précise que Le Démon de la Colline au Loup, en attendant la version dessinée, est déjà disponible, notamment en poche au tarif de 10 euros. On vous représente, Dimitri Rouchambori. Vous êtes donc journaliste et auteur breton. Merci beaucoup.
Merci à vous.
J'aime lire les grands récits de chasse, l'odeur de la besace, le muscle du cheval, les plumes sous les balles. J'aime lire l'album de la comtesse, les tresses et la détresse. J'aime quand un simple mousse la trousse et la détrousse. En pente, les épopées sanglantes, brusquement et soudain. Pourtant, tout allait bien. J'aime lire, mais non, je ne l'ouvrirai pas. Je la laisserai là, cachetée, silencieuse. J'aime lire les rapports de police, les tortures, les supplices. J'aime la garde à vue, le pas vers la bavure. J'aime lire les histoires. histoires de guerre, les vraies, celles d'hier, celles qui se terminaient et la vie reprenait. J'aime lire, mais non, je ne l'ouvrirai pas, je la laisserai là, cachetée silencieuse, je ne risquerai pas.
J'aime lire, c'est Albin de la Simone qui le dit, et je le rejoins. Un titre que vous venez d'entendre sur Canal B dans l'émission De Boule Vanille, c'est une carte blanche qui est laissée aux salariés et aux bénévoles de la radio pendant l'été. Aujourd'hui, on bouquine pendant une heure pour vous donner des envies d'achat ou d'emprunt, tout est possible, hein, avant de prendre la direction peut-être des plages ou des montagnes si vous avez de la chance. On continue avec un arrêt au chapitre littérature jeunesse. Je vous propose dans chaque émission littéraire de découvrir ou redécouvrir plusieurs albums du génial Claude Ponty. Aujourd'hui, on s'arrête sur cette œuvre, sur cet ouvrage « Okilélé » qui est paru en 1993. Merci à Yann, Morgane, Iris et Louise pour leur participation à la création sonore que vous allez entendre. Et l'habillage musical, il est lui signé Robert le Magnifique, un compositeur français dont je suis allée piocher plusieurs morceaux dans l'album « Fuck the Hell Year » qui est sorti en 2016. Quand il est né, Okilélé n'était pas beau. Ses parents, ses frères, sa sœur dirent
« Okilélé !»
Okilélé pensa que c'était son prénom, et chaque fois qu'il l'entendait, il se précipitait. Alors son père, sa mère, ses frères et sa sœur finirent par l'appeler Okilélé. Surtout ses frères et sa sœur qui aimaient beaucoup l'appeler.
Okilélé !
Un jour, il vit qu'il n'avait pas la même tête que les autres. Il décida de se fabriquer un masque pour être comme tout le monde. Parfois, Okilélé attachait les gens de sa famille avec des cordes pour parlophoner tous ensemble. Il arrivait à bien les attacher, il n'en oubliait aucun. Mais à chaque fois, son parlophone était trop serré et les choses ne marchaient pas du tout comme il voulait. Souvent, le matin, il prenait un bain de café au lait et se faisait des bateaux tartines à la confiture de crème de gruyère au chocolat. Certains jours, il n'était jamais bien. Dans tous les coins où il s'installait, il dérangeait quelqu'un ou quelqu'un le dérangeait, même s'il ne faisait pas de bruit, dans la cabane qu'il avait construite pour être tranquille. Et quand il réussissait à être à table en même temps que tout le monde était fâché. Alors, il se cachait sous l'évier pour pleurer. Il y restait des heures entières, et là, on le laissait tranquille, et même, on l'oubliait. Okilélé décida de s'installer sous l'évier, Il construisit un lit suspendu et quelques meubles avec tout ce qu'il trouvait dans la poubelle et qui pouvait encore servir. Il entreprit aussi de se coudre une cape pour se protéger du froid et de la pluie. C'est alors qu'il rencontra Martin Réveil. Okilélé répara Martin Réveil, qui avait été cassé et jeté à la poubelle. Ensuite, Okilélé brancha l'électricité. Cette nuit-là, Martin Réveil raconta l'histoire de sa vie à Okilélé. C'était une histoire gaie le soir et triste le matin.
Gentil avec moi, il me disait « S'il te plaît, réveille-nous, demain matin, surtout n'oublie pas !» Et moi, le matin suivant, je les réveillais. Mais là, il me tapait dessus pour dormir encore. Et il me cassait tous les jours un peu plus.
Okilélé apprit à lire et à écrire en mangeant de la soupe aux lettres avec son nouvel ami. Avec lui, il agrandit sa maison sous la terre. Ils creusèrent de nombreux tunnels. Tous les matins, ils inventaient une pièce qui s'ajoutait aux autres. Le soir, ils construisaient le parlophone géant, avec un vieux poste de radio, beaucoup de fils électriques et des tas de choses cassées qu'ils trouvaient dans la poubelle. Okilélé voulait parlophoner avec les étoiles, savoir pourquoi les choses étaient comme ça et pas autrement. Une nuit, les étoiles répondirent. Elles dirent que quelque part, sur une planète, on avait besoin d'Okilélé. Okilélé ne sortait plus beaucoup de sous l'évier. Pourtant, un lundi, il dérangea les autres un peu plus que d'habitude. Ses parents entrèrent dans une grande colère. Il eut tellement peur qu'il ne put rien dire d'autre que
« Pitrouille, pitrouille !»
Mais ses parents ne sortirent pas de leur colère. Ils ne voulaient plus le voir. Qu'il retourne dans son trou et qu'il y reste, jusqu'à la fin des fins. Son père prit des briques et du ciment et l'enferma sous l'évier. Okilélé décida de partir avec Martin Réveil pour chercher les voix qui lui avaient parlophoné et trouver le quelqu'un qui avait besoin de lui. Okilélé et son ami marchèrent dans la nuit. Ils marchèrent longtemps, dans plusieurs nuits, jusqu'au jour de Gradus, l'éléphant muet. Une cafteuse tomba du ciel pour expliquer ce qui était arrivé à Gradus, qui n'avait pas toujours été muet.
C'est Gradus, l'éléphant muet. Il est bloqué depuis qu'il a eu le dernier mot dans une discussion. Comme il a prononcé le dernier mot, il ne peut plus parler. Et ça le bloque, ça le bloque!
Okilélé réfléchit et dit à Gradus
« Si tu as eu le dernier mot, tu l'as toujours, et un mot, c'est suffisant. Prononce ton dernier mot. »
C'est ce que fit Gradus, et il fut délivré.
« Moi, 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 moi !»
Il décida d'accompagner Okilélé parce qu'il était très pressé de lui rendre service pour le remercier. La cafteuse, qui les suivait de près, savait comment faire avec la boîte à réponses.
La boîte à réponses répond à toutes les questions, même à celles qu'on n'a pas posées. Il faut prononcer le mot magique pour qu'elle parle. Un mot, un seul mot suffit.
Okilélé allait enfin entendre les réponses à toutes les questions qu'il se posait et à celles qu'il ne se posait pas. Mais voilà, Gradus arriva avant lui. Le mot n'était pas le bon. La boîte à réponses s'envola.
« Je veux plus qu'on m'aide !»
À cause de Gradus, Okilélé ne pouvait plus poser ses questions, ni savoir où était le quelqu'un qui l'attendait. Il dit au revoir à Gradus et s'en alla, seul, avec Martin Réveil, sans plus savoir quel jour on était.
« Maintenant, c'est aujourd'hui !»
lui dit un vieillard très vieux et très sage qui dormait là.
« Il te faut suivre le fil, trouver la vieille forêt !» « Faire l'arbre !»
dit aussi le vieillard très sage à Okilélé. Okilélé remercia et partit chercher le fil. C'était un très petit fil, mince comme un cheveu. Difficile à voir, jusqu'à ce qu'il se transforme en corde. Okilélé réussit à suivre la corde partout où elle passait, sans jamais la perdre de vue. Il arriva au bord d'un précipice où la corde faisait un pont. Sur ce pont habitait un monstre qui ne voulait jamais laisser passer personne. Surtout pas un petit rien du tout, avec une seule trompe, comme Okilélé. Okilélé eut très peur. Il éternua tout son rhume noir d'un seul coup. Il avait toujours eu un petit rhume noir, il n'y faisait même plus attention. Et voilà qu'il sortait complètement de lui, et qu'il tuait le monstre. Okilélé franchit le pont très vite, avant qu'un autre monstre ne pousse sur la corde, ou quelque chose d'autre de plus horrible. Il entra dans un bois de silence où aucun vent ne soufflait. La corde conduisait à une maison d'où elle ne ressortait pas. C'était la maison de Pophise Forêt, une vieille sorcière déguisée en vieille femme fatiguée. Pophise Forêt demanda à Okilélé de remplir son puits sans fond avec une casserole percée. Elle lui demanda d'enfoncer 52 000 et 3 clous dans du bois de fer. Elle lui demanda de scier et de ranger son bois pour tous les hivers. Elle lui demanda 9 petits déjeuners par jour, même la nuit. Et elle lui demanda d'arrêter son ami, Martin Réveil. Okilélé refusa et il reprit son chemin. Martin Réveil était content. Il n'aimait pas du tout Pophise Forêt. Elle usait tellement les gens qu'il n'en restait plus que les os. Et après, elle plantait les os autour de sa maison. Okilélé marchait sans savoir où aller. Il regarda les arbres. Ils tenaient le ciel dans leurs branches et la terre dans leurs racines. Ils devaient certainement tout savoir et tout comprendre. Okilélé leur parla, mais il n'entendit pas leur réponse. Il ne savait pas parler arbre. Okilélé se souvint des paroles du vieillard très vieux. Il devait faire l'arbre. Il fit un trou et se planta dans la terre. Okilélé fit l'arbre. Il ne bougea pas. Il pensa très fort qu'il était un arbre. Et il sentit pousser ses bourgeons. Il sentit pousser ses jeunes branches. Il entendit le petit froissement de ses feuilles qui se dépliaient. Comme il devenait un très bel arbre, deux oiseaux le choisirent pour bâtir leur nid. Les racines d'Okilélé s'enfonçaient partout dans la terre. Ses branches s'étendaient partout dans le ciel. Il apprenait les secrets des pierres qui sont aussi vieilles que la terre, et ceux du ciel, qui sont immenses. Il apprit également le langage des oiseaux, en écoutant les leçons que recevaient les oisillons. Et le jour où les oiseaux s'envolèrent, Okilélé cessa de faire l'arbre.
Let's go !
Il jeta ses branches et quitta ses racines. Il savait parler arbre, il savait parler oiseau, il parlophonait avec le monde entier. Il posa 1000 questions à n'importe qui, sur n'importe quoi, pendant 3 jours et 3 nuits. La troisième nuit, un arbre dit à Okilélé
« Maintenant, tu peux parlophoner à qui tu veux. Pourquoi ne pas aller sur cette planète où quelqu'un t'attend ?»
L'arbre avait raison. Okilélé sauta sur le sol, Martin réveille aussi. Okilélé planta une montagne. La montagne sortit de terre et se mit à pousser. Elle traversa le ciel, elle traversa l'espace et elle atteignit les étoiles. Okilélé grimpa sur la montagne jusqu'à une planète morte qui tournait autour d'un soleil endormi. C'était ce soleil, le quelqu'un qui avait besoin d'Okilele. Il parlophonait pendant son sommeil. Dans ses rêves, il lui disait que lui seul, Okilele, pouvait le réveiller. Okilele parlophona avec les étoiles. Il parlophona avec le plus petit caillou de tout l'univers. Et il trouva le remède. Le soleil s'éveilla, guérit, et sa chaleur s'étendit à nouveau partout autour de lui. Il donna un petit morceau de lui-même à Okilele et lui dit qu'il ne l'oublierait jamais. Okilele redescendit de la montagne. Martin réveille sur ses genoux parce que c'était trop dangereux pour lui. Il trouva la maison de ses parents en ruine. Elle avait été trempée par les pluies, battue par les vents, démolie par les tempêtes. Un ruisseau la traversait. Dans la maison, Okilele but l'eau du ruisseau. C'était une eau salée, une eau de larmes. Okilele remonta le long du ruisseau de larmes, il grimpa sur les rochers, escalada les falaises et arriva dans une forêt de sapins. Entre les troncs, devant une cabane de branches, il reconnut ses parents. Ses parents pleuraient sans cesse. Tout allait mal depuis qu'il était parti. Les mots disaient le contraire, les mains faisaient autre chose et les repas n'avaient plus de goût. Okilele prépara un bon repas dans la grande marmite de fête. Pour le goût, il mit sa cape et les dernières gouttes du ruisseau de larmes. Après le repas qui dura 7 heures et qui avait 14 desserts ordinaires et 28 extraordinaires, tout le monde dansa la grande danse de la joie joufflue. Le lendemain, au petit matin, toute la famille se mit au travail pour reconstruire la maison exactement comme avant, sans rien changer. Quelques jours plus tard, Okilele regarda son petit soleil qui était monté dans le ciel. Il pensa à la planète morte et se souvint qu'il avait vu une princesse se réveiller en même temps que le soleil. Il lui restait donc une chose à faire, aller chercher la princesse et l'épouser, si elle le voulait bien. Okilele de l'auteur et illustrateur français Claude Ponty. Vous êtes toujours sur Canal B. Tiens, transition toute trouvée. Claude Ponty fait partie des auteurs qui se racontent dans le podcast Bookmakers que je vous recommande maintenant pour terminer l'émission du jour. Bookmakers, c'est une série d'entretiens menée par Richard Guettet, lui-même auteur et journaliste. C'est un travail qu'il a mené pour Arte Radio depuis 2020 et jusqu'en juin 2024, mois du dernier épisode. 31 auteurs et autrices francophones racontent leur entrée en littérature, leurs inspirations, leur processus d'écriture ou encore leur cheminement d'un livre à l'autre. C'est passionnant car ça déconstruit totalement cette idée du génie littéraire qui est bien ancrée en nous. Et puis on découvre toute la cuisine qui est habituellement tue et qui se cache entre les lignes des livres. Aujourd'hui, vous allez entendre un extrait de l'épisode numéro 81 avec Constance Debré. Cette autrice, elle a 5 romans à son actif, dont Playboy en 2021, qui signe sa rupture avec son milieu social d'origine. La réalisation de l'épisode dont vous allez entendre un extrait est signée Charlie Marcellet et l'intégralité de cet entretien, mais aussi tous les autres épisodes, sont à écouter évidemment sur arteradio.com.
Quand on vous demande pourquoi s'est écoulé autant de temps, 14 ans, ce n'est pas rien, entre votre premier roman, Un peu là, beaucoup ailleurs, sorti en 2004, et Playboy, en 2018, vous répondez « En tant qu'avocate de droit pénal, j'ai beaucoup plaidé. Et tout à coup, ce pouvoir de parler, on veut en faire quelque chose de plus radical. Alors on laisse tout tomber, et on n'en a plus rien à foutre de rien, et on se met à vivre avec son ordinateur comme un taré. » Mais quel est le déclencheur ? Je crois savoir qu'en 2015, vous rencontrez une femme plus âgée que vous.
J'étais séparée depuis plusieurs années du père de mon fils. J'ai pas quitté pour une femme, on s'est séparés. Et puis j'ai eu une première histoire d'amour avec une femme. Et première semaine, je me suis dit, mais en fait, on peut vivre autrement. La première fois que j'ai couché avec elle, je me souviens avoir ce truc qui, mais en fait, je peux écrire des livres. J'aurais pu la quitter pour me dire, ok, c'est bon, j'ai compris, je vais écrire. Mon coming out tardif, donc à plus de 40 ans, a été essentiel dans l'écriture aussi.
Vous avez dit, dans la même semaine, j'ai couché avec une fille, je me suis mise à nager et j'ai ouvert mon ordinateur. Pas pour écrire mon journal, non, pour écrire un livre. Et j'ai eu le sentiment d'avoir un super pouvoir. Playboy sera le roman de cette métamorphose. Vous quittez votre appartement du 5e arrondissement. Vous balancez aux encombrants quasiment tous vos vêtements, tous les meubles, toutes les merdes et les machines à laver. La volonté de couper net avec des choses qui vous empêchent est une expérience extraordinaire. Puis votre corps change, la nage vous sculpte, vous vous musclez, vos cheveux sont de plus en plus courts et des tatouages commencent à apparaître. Vous vous délestez de l'essentiel en vivant dans un studio de 14 mètres carrés, avec juste deux jeans, des chemises unisex, un matelas, votre Mac et quand même une montre Rolex.
C'est un peu mise en scène, hein. Je rappelle que ça, c'est décrit à partir de la vérité, enfin de la réalité, pas de la vérité. Je me mets à écrire, je fais que ça, parce que je suis un peu monomaniaque, donc, et ça veut dire ne plus être avocat, et donc ça emporte des conséquences de fric évidemment radicales, parce que je n'ai pas d'éditeur, je n'ai pas d'argent, ce livre que je commence, je vais mettre du temps à l'écrire. Mais c'est pas grave, en fait. Ce qui est important, c'est le livre et il faut tenir. J'ai toujours vécu avec quelques jeans et des livres et genre, les meubles, la déco et tous ces trucs, ça m'a toujours, je trouve ça grotesque. Enfin, même, je trouve ça immoral, le monde matérialiste dans lequel on vit. Enfin, c'est pas. Mais là, d'être au plus sec de ça, c'est une bonne leçon, je pense. Parce que même si j'ai jamais eu beaucoup d'argent, bien sûr que je suis d'un milieu bourgeois et que j'ai vécu dans des bons quartiers, dans une bonne ville et que j'ai fait des voyages et que je parle anglais et que j'ai eu des métiers cool parce que j'ai pu faire des études, même si je me suis démerdée parce que mon parent n'avait pas de fric, mais bon. Et donc d'être déplacée dans une zone où c'est vraiment raide, vous savez, plus de cartes, plus de papier, franchement, vous savez vraiment pas comment vous allez bouffer le lendemain, ça, c'est un peu raide, mais j'ai pas dormi à la rue et des choses comme ça. Je faisais ce que j'avais décidé de faire, mais ça, qui a ce privilège, qui est d'écrire un livre. Alors évidemment qu'on me regardait comme une cinglée. Un livre, il n'y avait que moi qui disais que c'était un livre. Hein. C'était juste un document sur l'ordi.
De Boule Vanille, je vous l'annonce, c'est fini pour aujourd'hui. Une émission estivale à écouter du lundi au vendredi à 17h et en rediffusion à chaque fois le lendemain à 8h. Pour les podcasts, eh bien, ça se passe sur canalb.fr. Je vous souhaite un bon été.